étoiles sans nombre, ma barque au loin d'où ça ramait. Heureux, celui qui devient sourd au chant, s'il naît de son amour, aveugle au jour d'après son jour, ses yeux sur toi seul fermés. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. D'aimer si fort, ses lèvres closes, qu'il n'ait besoin de nulle chose, hormis le souvenir des roses, à jamais de toi parfumée. Celui qui meurt, même à douleur, à qui sans toi le monde est leur, et n'en retient que tes couleurs, il lui suffit qu'il t'ait nommé. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. Mon enfant, dit-il, ma chère âme, le temps de te connaître, ô femme, l'éternité n'est qu'une pâme au feu dont je suis consumé. Il a dit aux femmes, et qu'il taise, le nom qui ressemble à la braise, à la bouche rouge, à la fraise, à jamais dans ses dents formées. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. Il a dit aux femmes, et s'achève ainsi la vie, ainsi le rêve, et soit sur la place de grève ou dans le lit accoutumé. Jeunes amants, vous dont c'est l'âge, entre la ronde et le voyage, fous, ces parions qui se croient sages, criez à qui vous veut blâmer. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer.
Plein de caddies et de milous, quand soudain trois guignols masqués en parka militaire, au milieu des clients surgissent entre chiens et loups. Déjà le Rio de Gun ouvre le bal du sacrifice, sur son masque le clown fige un rire carnassier, géant de carnaval allumant ses feux d'artifice dans la fumée des phares.
Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
L'infâme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, v'là tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Je t'ai envoyé au marché faire des courses et tu me ramènes un sac tout boueux, tout sale, tout dégueulasse. T'aurais pu au moins le nettoyer, Eva. Je suis pas content de voir ta grand-mère. Eva, le sac sale, hélas, ça se lave. Eva, le sac sale, hélas, ça se lave.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Radio Libertaire 89.4, l'émission Civis Pacem, qui est une émission antimilitariste qui est du groupe parisien de l'Union Pacifiste, la section française de l'Internationale des Résistants à la Guerre. Bonjour Elsa.
Bonjour papa, bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs.
Voilà, nous allons faire aujourd'hui une émission assez portée sur les conflits palestino-israéliens, la bagarre des deux frères, qu'on dit soi-disant ennemis, mais qui font partie, ce sont deux pays qui sont des jumeaux. Quand on remonte très longtemps en arrière, on voyait que dans la Palestine, il y avait un petit endroit qui s'appelait la Judée. Donc, c'était où il y avait une communauté juive était là, et les Palestiniens arabes qu'on appelle maintenant, et ben ils étaient aussi, et les mariages se faisaient entre eux, ils étaient commerçants et tout, rien ne se proposait. Et depuis 48, quand on a créé que l'État d'Israël, là ça a été le chambardement, là tac là. Et je voudrais quand même, avant de commencer à lire, un animateur qui avait fait beaucoup de choses pour notre radio, que j'ai connu simplement lorsque il faisait l'émission Trafic avec sa compagne Agnès, est décédé. Voilà, c'est le, comment on dit, c'est le crabe qui l'a emporté. Et c'est ce qui est dingue. Et j'ai une grande pensée pour lui, parce que quand on faisait des animations entre animateurs et gens de la radio, on allait souvent au studio campus, et lui il préparait toute la salle pour nous accueillir le mieux possible. Voilà, donc je vous dis, Elsa va commencer l'émission avec c'est Greenpeace, hein, il me semble.
Oui, un rapport rédigé par Greenpeace en septembre de 2023 concernant le nucléaire. C'est diversion climatique, le mauvais choix de la relance du nucléaire. Mais c'est encore d'actualité, étant donné que ça fait partie de la première une du journal La Bannière, qui date du début de cette année. Soit je regarde pour ne pas dire de bêtises, que je retrouve la date. Oui, hiver 2023, mais on est encore en hiver, donc c'est encore d'actualité.
Et ensuite, je vous parlerai d'un texte que nous a envoyé Serge et Monique de Trou Noir, qui parle de la Palestine et de tous ceux qui profitent de la guerre pour vendre des armes. Et ce sont quand je vous dirai le nom des sociétés qui participent, vous allez être étonnamment étonné, si je puis me permettre ça.
Je vous recommande d'être assis. D'être assis. Et si vous êtes pris de nausées, ayez des sacs à disposition. Dans une poule.
Des sacs bien étanches.
Oui, des sacs bien étanches.
Sinon, vous prenez une grosse casserole.
Oui.
C'est les casseroles qu'on sert pour laver les pieds, quand on est très fatigué en fin de journée.
Oui, oui, oui. Et de l'eau, filtrée de préférence. De l'eau, histoire de vous hydrater.
Oui.
Parce que ce sera riche en émotions.
Bon, eh ben, la parole est à toi, Elsa.
Voilà. Pour respecter l'accord de Paris et se placer sur une trajectoire de réchauffement climatique limitée à maximum plus 1,5 degré centigrade, 80% des baisses d'émissions de gaz à effet de serre à réaliser en France doivent l'être dans les 12 prochaines années. Avec des délais de construction de 15 ans minimum, le programme de relance de construction de nouveaux réacteurs nucléaires n'aurait aucun impact sur la décarbonation du mix énergétique à court et moyen terme. Greenpeace a comparé le potentiel d'impact sur la décarbonation du mix énergétique des 6 réacteurs. Alors, Evolutionary Power Reactor 2, modèle de réacteur nucléaire à eau pressurisée de génération 3 d'une puissance de l'ordre de 1600 MW3, inspiré des réacteurs EPR construits à Taishan en Chine et Olkiluoto, Finlande, en construction à Hinkley Point, Angleterre, et Flamanville, France. À l'horizon 2050, avec celui correspondant à des investissements financiers d'un même ordre de grandeur dans la rénovation thermique performante des logements passoires énergétiques ou dans la construction d'infrastructures d'énergie renouvelable d'un mixte éolien photovoltaïque. Le résultat est édifiant. Investir d'ici à 2033 85 milliards d'euros de subventions publiques dans la rénovation bâtiments basse consommation des passoires énergétiques permettrait d'éviter 6 fois plus d'émissions de CO2 cumulées d'ici à 2050 qu'avec le programme de construction de 6 EPR2. Cela permettrait également de sortir près de 12 millions de personnes de la précarité énergétique en une décennie. Investir 52 milliards d'euros dans un mixte d'infrastructures éoliennes terrestres panneaux photovoltaïques sur grande toiture permettrait d'éviter 4 fois plus d'émissions de CO2 qu'en investissant la même somme dans la construction de 6 EPR2 d'ici à 2050, tout en triplant la production d'électricité. Loin d'être un choix judicieux pour le climat, la relance du nucléaire est l'option la plus lente et ayant le moins d'impact à court, moyen et long terme sur la décarbonation du mixte énergétique. La décarbonation, c'est maintenant, pas dans 20 ans. Les scientifiques du GIEC ne cessent de le répéter. Et les événements climatiques extrêmes qui se multiplient sont sans équivoque. La décarbonation de nos sociétés doit avoir lieu dès maintenant et sans attendre d'éventuelles solutions technologiques lointaines. Greenpeace a publié en juillet 2023 une note illustrant la nécessité pour la France de réaliser dans les 12 prochaines années 80% des baisses d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour atteindre la neutralité carbone afin de respecter la trajectoire 1,5 degré centigrade de l'accord de Paris. Il est urgent de décarboner notre mixte énergétique, aujourd'hui constitué par 2/3 d'énergie fossile. Car c'est bien la trajectoire et donc le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui importe. Une fois émis, les gaz à effet de serre ont une durée de vie dans l'atmosphère de plusieurs décennies et continuent de la réchauffer longtemps. L'enjeu est donc d'éviter leur accumulation dès aujourd'hui, et non de continuer sur une trajectoire d'émissions massives de CO2 en prévoyant de baisser drastiquement les émissions dans 20 ou 30 ans sur la base d'un hypothétique calendrier de construction et de démarrage de réacteurs d'un nouveau modèle, les EPR2. Alors que le gouvernement et EDF veulent investir des milliards d'euros dans le nouveau nucléaire pour construire 6 réacteurs de modèle EPR2, Greenpeace a comparé la différence d'impact sur la décarbonation du mix énergétique d'un investissement financier d'un même ordre de grandeur dans 3 scénarios différents. L'installation d'énergie renouvelable composée d'un mix éolien terrestre photovoltaïque, la rénovation performante des passoires énergétiques et la relance du nucléaire avec la construction de 6 réacteurs de modèle EPR2. Les variables, comme les délais et les coûts de construction du programme de 6 EPR2 que nous utilisons comme référence dans nos calculs, sont celles annoncées à ce stade par le gouvernement. Cette estimation, chiffrée aux alentours de 52 milliards d'euros, soit environ 17 milliards d'euros par paire de réacteurs, pour un démarrage du premier réacteur EPR2 en 2037, puis tous les deux ans, ne prend pas en compte les coûts de financement et sera donc nécessairement réévalué à la hausse. Par ailleurs, elle paraît bien trop optimiste au vu du retour d'expérience du fiasco industriel du modèle EPR avec ses délais et ses coûts de chantier systématiquement allongés et multipliés, que ce soit en France ou dans le monde. À ce jour, le chantier de l'EPR de Flamanville accuse 12 ans de retard et une multiplication par 6 de ses coûts pour atteindre plus de 20 milliards d'euros, frais financiers inclus, contre 3,3 milliards d'euros prévus initialement. Si les coûts et délais avancés par le gouvernement et EDF semblent largement sous-évalués, l'objet de ce présent rapport n'est pas de les discuter. Nous avons donc pris les chiffres du gouvernement comme référence pour les calculs présentés ici. Les coûts des rénovations énergétiques performantes des logements et du mix d'infrastructures éoliennes et solaires se basent sur les données publiques dont les sources sont documentées et les raisonnements détaillés en annexe de ce document. Pour réaliser nos calculs, nous avons utilisé des hypothèses conservatrices prenant en compte les facteurs les plus défavorables au développement de l'éolien terrestre et photovoltaïque sur toiture et le scénario le plus favorable au développement du nouveau nucléaire. Ces calculs reflètent donc une tendance largement inférieure à ce que pourrait être la réalité. Pourtant, les résultats de cette étude sont édifiants. La première partie de ce rapport s'attachera à comparer la différence d'impact sur la décarbonation du mix énergétique entre l'investissement financier nécessaire à la construction de 6 réacteurs EPR2 et un investissement d'un même ordre de grandeur dans un mix 60% éolien, 40% photovoltaïque. Un tableur de calcul est mis à disposition pour la réalisation de simulations de différents scénarios en fonction de la modification des variables, date de mise en service des réacteurs nucléaires, coûts, etc. La deuxième partie s'intéressera au calcul de l'investissement nécessaire à la rénovation performante de l'ensemble des passoires énergétiques en France, qui permettrait la sortie de près de 12 millions de personnes de la précarité énergétique d'ici une décennie. Il s'agira d'évaluer l'économie annuelle de consommation d'électricité et les émissions de tonnes de CO2 qui seraient évitées grâce à ces rénovations et de comparer les bénéfices liés à l'investissement de cette même somme dans un programme de construction de 6 EPR2. L'objectif de ce rapport est d'enrichir le débat sur la politique énergétique future de la France en évaluant l'impact concret de différentes mesures pour faire face à l'urgence climatique, celle-ci étant pour Greenpeace indissociable de l'urgence sociale et environnementale. Alors, le contexte. Selon les scientifiques du monde entier, notre marge d'action pour limiter le dérèglement climatique à plus 1,5 degré centigrade se réduit de jour en jour et la décarbonation massive et rapide de notre mix énergétique est une urgence absolue. Elle passe d'abord par un changement d'organisation de notre société dans tous les secteurs, avec des plans de sobriété, des économies d'énergie, le développement de l'efficacité énergétique et la construction d'infrastructures d'énergie bas carbone et renouvelables ayant un impact rapide et massif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Compte tenu des délais de conception, de construction et de mise en service illustrés par le fiasco industriel de l'EPR, aucun effet positif sur la réduction du contenu carbone du mix énergétique ne peut être attendu grâce à ces nouveaux réacteurs nucléaires avant au mieux 2037. Pourtant, EDF et le gouvernement sont prêts à y investir des dizaines de milliards. Est-ce vraiment un choix judicieux ? Le 10 février 2022, Emmanuel Macron, président candidat à l'élection présidentielle, annonçait lors de son discours de Belfort sa volonté de relancer un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires de modèle EPR2. Depuis ce jour, les membres de la majorité gouvernementale agissent comme si cette annonce était entérinée, bien qu'elle ne fasse pour l'instant l'objet d'aucune décision officielle sur la relance ou non d'un programme nucléaire en France. L'appareil d'État a mis en marche le rouleau compresseur du nucléaire, bafouant le débat public organisé par la Commission nationale du débat public, avec notamment le passage concomitant de la loi 2023-491 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité des sites nucléaires existants. Les gouvernements des dernières décennies ayant misé essentiellement sur la production électrique d'origine nucléaire sans anticiper la relève du parc actuel composé de 56 réacteurs vieillissants, la France se retrouve face au défi de la sécurité d'approvisionnement électrique et à l'urgence de décarboner son mix énergétique. La France est en retard dans le développement des énergies renouvelables, dont l'éolien et le solaire, qui sont devenus le moyen le plus rapide et le moins cher de produire de l'électricité dans le monde et supplantent aujourd'hui la production d'énergie nucléaire au niveau mondial. Alors que la relance de la filière nucléaire est un chemin périlleux face aux défis industriels et financiers qu'elle représente, Greenpeace s'est intéressé dans ce rapport à l'un des principaux arguments mis en avant par le gouvernement pour justifier la relance d'un programme de construction de réacteurs EPR2, permettant de décarboner notre mix énergétique, le nucléaire serait une réponse incontournable pour faire face à l'urgence climatique. Greenpeace s'est attaché dans cette étude à comparer l'impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de trois scénarios d'investissement de ce milliard d'euros dans un mix d'énergie renouvelable éolien photovoltaïque, dans la construction de six réacteurs EPR2 et dans un plan ambitieux de rénovation performante des passoires énergétiques. Première partie, l'éolien terrestre et le photovoltaïque, bien plus rapide pour réduire les émissions de CO2 que le nucléaire. Compte tenu des délais de conception, de construction et de mise en service d'hypothétiques nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 en France, aucune contribution à la décarbonation du mix énergétique grâce au nouveau nucléaire ne peut être attendue avant au mieux 2037. L'impact du nucléaire sur la réduction d'émissions de CO2 sera nul pendant au moins les 15 prochaines années, pourtant crucial pour atteindre la trajectoire fixée dans le cadre de l'accord de Paris. De leur côté, l'éolien terrestre et le photovoltaïque, filières techniquement, économiquement et opérationnellement matures, ont des délais de développement, de construction et de mise en service déjà beaucoup plus courts qu'auparavant. La loi du 10 mars 2023 sur l'accélération des énergies renouvelables a pour objectif de réduire davantage ces délais dans une perspective de massification, aidée en cela par la baisse du coût de ces technologies. Réduction de 85% du coût LCOE qui... Il représente l'ensemble des coûts des actifs de production d'électricité tout au long de leur durée de vie. Exprimé en EUR MWh, il est utilisé pour comparer le coût de la production d'électricité entre différentes technologies. Donc de l'énergie solaire et d'environ 50% pour l'énergie éolienne lors de leur dernière décennie. Entre 2010 et 2022, la production mondiale d'électricité a augmenté de 1793 TWh pour l'éolien et de 1258 tétrawatts-h pour le photovoltaïque, tandis qu'elle a baissé de 76 tétrawatts-h pour le nucléaire. Ainsi, la production mondiale d'électricité renouvelable dépasse de loin celle du nucléaire. Elle s'impose comme le moyen le plus rapide et le moins cher de produire de l'énergie bas carbone dans le monde. Présentation de l'étude et méthode. Greenpeace s'est interrogé sur la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui serait évitée d'ici à 2050 pour un même niveau d'investissement en comparant un programme de construction de 6 EPR2 tel qu'annoncé par le gouvernement et EDF et la construction d'une combinaison de parcs éoliens terrestres et de systèmes photovoltaïques sur grande toiture, les deux technologies les plus rapides à mettre en œuvre dans un contexte de tension sur la sécurité d'approvisionnement. La méthode et le raisonnement de notre étude se trouvent détaillés en annexe 1. L'outil tableur élaboré pour les besoins de cette étude permet de faire varier un certain nombre de paramètres de façon à pouvoir éclairer les résultats du scénario central par des analyses de sensibilité. Il est disponible en annexe 2. En particulier, les calculs se basent sur l'hypothèse d'évolution future du contenu carbone moyen du mix électrique européen qui permet d'évaluer les émissions évitées selon l'année de mise en service des moyens de production nucléaire ou renouvelable. Alors, les résultats. L'investissement de 52 milliards d'euros dans la construction de 6 EPR2, avec une mise en service des deux premiers en 2037 et 2039, puis tous les deux ans, comme annoncé dans le scénario standard présenté par le gouvernement et EDF, permettrait d'éviter les émissions cumulées de 24 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2050 pour une production cumulée d'électricité de 530 TWh. Le même montant d'investissement fléché sur la construction d'infrastructures d'énergie renouvelable composée d'un mix de 60% éolien et 40% de panneaux photovoltaïques permettrait d'éviter les émissions cumulées de 102 millions. Je vous prie de m'excuser, il y a un petit problème de page. 102 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2050 pour une production cumulée d'électricité de 1538 TWh. Analyse de sensibilité. L'outil tableur permet de faire varier les paramètres suivants. Les coûts d'investissement et les facteurs de charge pour les trois filières, nucléaire, éolien terrestre et panneaux photovoltaïques. Les objectifs d'émission du mix européen aux horizons 2030 et 2050, ratio éolien panneau photovoltaïque, la date de mise en service du premier EPR2. Les résultats des différentes variations que nous avons appliquées sont disponibles dans un tableau en annexe 1. Les paramètres le plus sensibles est le décalage de la date de mise en service du premier EPR2 suivi de l'augmentation du CAPEX. Alors, le terme CAPEX est issu de la contraction de capital expenditure qui désigne des dépenses d'investissement se référant à des immobilisations, c'est-à-dire aux dépenses qui ont une valeur sur le long terme. La combinaison des deux donne des résultats spectaculaires avec, par exemple, un doublement du ratio d'évitement d'émissions de GES à l'avantage des énergies renouvelables pour un décalage de 2 ans de la mise en service des EPR2 et une augmentation du CAPEX de 35%. Alors GES, gaz à effet de serre. Ces calculs suivent une méthodologie simplifiée par rapport à la réalité et ne tiennent pas compte, entre autres, des éléments suivants. L'effet cumulatif des émissions de gaz à effet de serre évitées, le taux de financement, les coûts de fonctionnement, les coûts associés à la gestion du réseau ou à la compensation de la variabilité des renouvelables. Conclusion. Même dans le scénario le plus favorable au nouveau nucléaire, respect des coûts et des délais de mise en service, facteurs de charge optimistes, moindre baisse des coûts des énergies renouvelables et calculs excluant l'effet cumulatif des émissions de gaz à effet de serre, le coût de fonctionnement et de financement tous deux largement favorables aux énergies renouvelables, à montant d'investissement égal, l'installation d'infrastructures d'énergie renouvelable composée d'un mix de 60% éolien et 40% de panneaux photovoltaïques permettrait d'éviter 4 fois plus d'émissions cumulées de CO2 d'ici à 2050 que la construction de 6 EPR2, tout en produisant 3 fois plus d'électricité en cumul sur toute la période. Le ratio de l'impact positif du mix éolien-panneaux photovoltaïques par rapport aux 6 EPR2 sur les émissions de CO2 évitées pourrait être doublé en cas de dérapage, même modéré, des délais plus 2 ans et des coûts plus 35% prévus pour les 6 EPR2. Ceci aboutirait à l'évitement de 8 fois plus d'émissions cumulées de CO2 d'ici à 2050 grâce au mixte éolien photovoltaïque par rapport aux 6 EPR2 pour 5 fois plus d'électricité produite en cumul sur toute la période. Pour référence, le retard du chantier de l'EPR de Flamanville et l'augmentation de son coût s'élèvent respectivement au moins à plus 12 ans et plus 479%. Une pause musicale et je reprends la suite de la lecture.
Vous qui méprisez la jeunesse, vous qui ne savez l'écouter, vous qui ne voyez que les fesses des filles et passez à côté de ce qu'elles ont dans la cervelle, sous leur chevelure mal peignée, se foutant de paraître belle à votre propre désignée. Halte au con. Vous qui qualifiez de loubards tous les taggers et les rappeurs, et pire encore quand ils sont noirs, vous qui souvent en avez peur sans que jamais dans votre tête vous n'entachiez d'un moindre doute cette certitude simplette d'avoir choisi la bonne route. Mort au con. Vous auriez pu imaginer que s'ils se mettent à l'écart de votre monde suranné en vous qualifiant de ringard, c'est peut-être de votre faute. N'en avez-vous la moindre idée? Et votre morale, s'il la saute, qu'avez-vous fait pour les aider? Pauvre con. Vous qui vous mettez des œillères pour ne pas voir les sans-logis, et dans des oreilles des pierres pour ne pas entendre les cris des torturés, des isolés, des victimes de toutes les guerres, enfants tués, femmes violées, familles expulsées de leur terre. Honte au con. Vous qui mettez dans le même sac drogués, homos, gitans, poètes, et appréhendez leurs attaques quand ils redressent un peu la tête, vous qui vous donnez bonne conscience en pratiquant dans vos églises le culte de l'intolérance sans voir les couteaux qui s'aiguisent. Mort au con. Vous qui méprisez la sagesse de ceux qui possèdent un passé, ceux qui prolongent leur jeunesse sans jamais vouloir l'oublier, vous qui croyez qu'après 30 ans c'en est fini de la gamberge, qui ignorez qu'à 60 ans on peut être plus jeune qu'à 20 berges. Pauvre con! Vous ne mettez pas en question ce piètre confort imbécile d'un petit bonheur sous gestion d'une imagination stérile. Vous êtes des clones de milliers de pauvres cons sur la planète, pour qui seuls comptent les billets qu'ils entassent dans leur cachette. Honte aux cons. Halte aux cons.
Merci Michel Valette, qui est un grand ami de Gérard Durand. Alsace, à toi.
Deuxième partie. Investir dans la rénovation énergétique, 85 milliards d'euros permettraient de sortir près de 12 millions de personnes de la précarité énergétique en une décennie. Contexte, les passoires énergétiques. Quelques chiffres. Les passoires énergétiques sont des logements ayant une étiquette de diagnostic de performance énergétique TPE, F ou G. Les étiquettes allant de A à G, G étant la pire. En France, d'après les dernières estimations de 2022, près d'un logement sur cinq est une passoire énergétique, soit plus de 5 millions de logements dans lesquels vivent plus de 12 millions de personnes. Un problème de santé publique. Les habitantes et habitants des passoires énergétiques sont dits en précarité énergétique. La mauvaise isolation des logements génère des conditions de vie délétères. Un confort en été lors de fortes chaleurs et en hiver pour cause d'inefficacité du chauffage et ou de dépenses énergétiques insoutenables pour les ménages modestes. Une affiche d'une campagne de la Fondation Abbé Pierre montre justement un enfant dans un taudis. C'est marqué « Dedans, tu vas avoir si froid ». Et on le voit justement mitouflé avec une écharpe. Une étude sur l'impact de la précarité énergétique sur la santé, réalisée par la Fondation Abbé Pierre, a montré comment la privation de chauffage aggrave l'état de santé des ménages précaires qui doivent régulièrement choisir entre se chauffer, manger, se soigner convenablement ou payer leur loyer. Dans les logements anciens, l'humidité et la vétusté peuvent également entraîner la dégradation des peintures au plomb, dont l'ingestion des poussières et écailles est particulièrement dangereuse pour les jeunes enfants. Ainsi, en 2013, plus de 5300 enfants étaient atteints de saturnisme en France, une maladie qui entraîne des troubles graves et irréversibles du développement. Dans les logements insalubres, 600 000 en France, ou habitats de fortune, 85 000 tentes, cabanes et caravanes, les infiltrations d'eau, une mauvaise ventilation et un chauffage insuffisant, voire absent, provoquent une forte humidité et le développement de moisissures qui aggravent ou provoquent des pathologies allergiques et respiratoires. Des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Selon le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministère de la Transition énergétique, en France, le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Il représente à lui seul 27% des émissions de CO2 et près de 45% de la consommation d'énergie finale. Des moyens ont été déployés par le gouvernement pour la rénovation thermique des bâtiments dans le cadre de France 2030, mais ils ne sont pas adaptés à l'urgence de la crise climatique et sanitaire ni à la vitesse à laquelle les passoires énergétiques devraient être rénovées. En octobre dernier, alors que l'Assemblée nationale avait voté pour une augmentation de 6,85 milliards d'euros du budget pour la rénovation énergétique des logements, le portant à 12 milliards par an, le gouvernement a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour retoquer la mesure ainsi que d'autres. Présentation de l'étude et méthode. Greenpeace a mené une étude afin d'estimer le montant de subventions publiques nécessaires pour rénover de façon performante l'ensemble des logements passoires énergétiques pour qu'ils atteignent un niveau bâtiment basse consommation, ainsi que la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui seraient évitées et les économies d'énergie, électricité, bois, fuel, gaz fossile qui en résulteraient. La méthodologie et les résultats détaillés sont disponibles en annexe 1. Résultats et conclusions, voici dans les grandes lignes le résultat obtenu. Le coût total des travaux nécessaires de la rénovation bâtiment basse consommation de l'ensemble des logements passoires énergétiques en France d'ici à 2033 s'élève à environ 169 milliards d'euros. Le montant total des subventions publiques nécessaires à la rénovation performante de l'ensemble des logements passoires énergétiques dans la prochaine décennie s'élève à près de 85 milliards d'euros, voire en annexe 3. Le rythme de rénovation des logements est aujourd'hui beaucoup trop lent et les moyens mis à disposition trop faibles. En 2022, l'Agence nationale de l'habitat comptabilisait seulement 66 000 rénovations globales, pouvant être considérées ici comme semblables à des rénovations bâtiments basse consommation. Parmi elles, toutes ne concernaient pas des logements passoires énergétiques. Pour enclencher une véritable transition énergétique, réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre et notre gaspillage énergétique et sortir au plus vite de la précarité les 12 millions d'occupantes et occupants de logements passoires énergétiques, une véritable montée en puissance de la rénovation énergétique performante en priorisant ces rénovations sur les logements passoires doit être réalisée. Pour cela, le rythme annuel de rénovation bâtiment basse consommation des logements passoires doit passer progressivement de quelques dizaines de milliers en 2022 à 700 000 par an d'ici la fin de la décennie en 2029 ou 2030. Avec cette montée en puissance, l'ensemble des logements passoires énergétiques de France pourrait être rénové d'ici 2033, entraînant de nombreux bénéfices pour les individus et la société. 85 milliards d'euros de subventions publiques investies d'ici à 2033 dans un scénario de rénovation bâtiment basse consommation des passoires énergétiques en 10 ans permettrait d'économiser plus de 156 MTCO2EQ d'ici à 2050 par rapport à un scénario tendanciel de rénovation lente sur 30 ans de la rénovation des logements passoires afin qu'ils atteignent un niveau bâtiment basse consommation en 2050. Cela représente 6 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre évitées en 2050 qu'un investissement de 52 milliards hors coût de financement dans la construction de 6 EPR2. Les calculs sont réalisés dans le tableur disponible en annexe 3. Cela permettrait aussi de réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre des logements passoires énergétiques jusqu'à économiser 20,2 MTCO2EQ par an à partir de 2033. Cela représente 5% des émissions de gaz à effet de serre actuelles en France. Cela permettrait d'économiser la consommation de plus de 19 tétrawatt-h d'électricité par an, soit environ la production électrique annuelle de 2 EPR2. Cela permettrait de sortir près de 12 millions de personnes de la précarité énergétique en une décennie, ce qui signifie un gain de bien-être pour ces habitantes et habitants qui ne souffriront plus du froid, de l'humidité, voire de la moisissure dans leur logement. Cela permettrait aussi la réduction de la facture énergétique des ménages. Cela permettrait une amélioration de la balance commerciale française en réduisant les importations d'énergie fossile et le gaspillage énergétique. Cela permettrait des économies sur les dépenses publiques de santé. Conclusion. Même dans le scénario le plus favorable au nouveau nucléaire, à montant d'investissement égal, l'installation d'infrastructures d'énergie renouvelable d'un mix éolien-photovoltaïque permettrait d'éviter 4 fois plus d'émissions cumulées de CO2 d'ici à 2050 que la construction de 6 EPR2, tout en produisant 3 fois plus d'électricité en cumul sur la période. Le paramètre le plus sensible pour faire varier ce ratio est le décalage de la date de mise en service du premier EPR2 suivi de l'augmentation des coûts de construction, la combinaison des deux donnant des résultats encore plus spectaculaires en faveur des renouvelables sur le ratio de gaz à effet de serre évité. Les calculs étant réalisés avec des données très conservatrices et le retour d'expérience de la série EPR actant un allongement systématique des délais et une multiplication des coûts, ces ratios ne sont que des indicateurs de la différence d'impact de ces technologies pour décarboner le mix énergétique de la France. L'investissement de 85 milliards d'euros de subventions publiques d'ici à 2033 dans la rénovation bâtiments basse consommation des passoires énergétiques permettrait d'éviter 6 fois plus d'émissions de CO2 d'ici à 2050 que l'investissement de 52 milliards hors coût financier de la construction de 6 EPR2 tout en sortant près de 12 millions de personnes de la précarité énergétique en une décennie. Les résultats de ce rapport démontrent l'absurdité du raisonnement. Le nucléaire est une énergie bas carbone, donc le développement du nucléaire est indispensable pour répondre à l'urgence climatique. Répété et amplifié dans la sphère publique par les tenants de l'industrie et le gouvernement d'Emmanuel Macron, dont l'objectif n'est pas l'intérêt général, mais le maintien de l'industrie nucléaire. Au lieu d'immobiliser des milliards dans le projet lent, ruineux et incertain de la construction de réacteurs EPR2, dont le modèle est basé sur un des plus grands fiascos industriels français, l'EPR, cet argent doit être utilisé pour financer des mesures qui permettront d'infléchir rapidement et massivement la courbe d'émissions de gaz à effet de serre de la France. La rénovation performante du parc de passoires énergétiques et le développement d'énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire, en plus d'avoir un impact direct sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans la prochaine décennie, crucial pour le climat, vont générer des co-bénéfices pour la population. Ceci inclut le retour sur investissement des énergies renouvelables à la collectivité, une augmentation de la sécurité énergétique dans les prochaines années qui pourrait être mise à mal par le vieillissement des centrales nucléaires du pacte actuel. Rappelez-vous Fukushima, rappelez-vous Tchernobyl. Et une amélioration de la qualité de vie de millions de personnes en les sortant de la précarité énergétique. À l'inverse, le nucléaire crée des externalités négatives pour la société et l'avenir des générations futures, telles que la production de déchets radioactifs qu'on ne sait toujours pas gérer sur le long terme et les risques d'accidents. Ceux-ci sont susceptibles d'augmenter dans un monde en surchauffe, suivant l'évolution de la situation géopolitique mondiale et la multiplication des conflits liés aux tensions autour des ressources naturelles, comme l'émergence des conflits d'usage de l'eau, dû à la nécessité de refroidir en permanence les réacteurs nucléaires dans un contexte où l'accès à l'eau se complexifie. Ces résultats sont de nature à éclairer le débat sur un choix du mix énergétique français dans lequel investir aujourd'hui. Au-delà d'un choix technologique, c'est un choix de société qui aura un impact sur notre sécurité énergétique et notre capacité à atténuer et nous adapter aux crises climatiques et environnementales et à répondre aux crises sociales. Loin d'être une décision aussi simpliste que présentée par la filière nucléaire et le gouvernement, le nouveau nucléaire, avec la construction de réacteurs nucléaires EPR2, est à court, moyen et long terme un mauvais choix pour décarboner notre mix énergétique face à l'urgence climatique. Chaque euro investi dans le nouveau nucléaire ne le sera pas dans une transition énergétique dimensionnée et adaptée à la hauteur de l'urgence climatique, environnementale et sociale. Recommandation. Le gouvernement Macron doit renoncer à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires pour ne pas mobiliser des ressources dans une technologie bien trop lente, incertaine et onéreuse au profit de la filière renouvelable et des investissements dans les changements systémiques des différents secteurs de notre société. La France doit se fixer des objectifs climatiques ambitieux sur la sortie des énergies fossiles, le développement des énergies renouvelables et la rénovation des logements compatibles avec une trajectoire de réchauffement climatique limitée à plus 1,5 degré centigrade. Une sortie au plus vite des énergies fossiles, avec des trajectoires et des dates de sortie inscrites dans la loi pour chacune d'elles, charbon, pétrole et gaz fossiles. Aucune nouvelle infrastructure fossile ne doit être développée. Le gouvernement doit notamment faire machine arrière sur le terminal méthanier flottant du Havre. Des objectifs 2030 et 2035 du développement pour l'éolien terrestre et le solaire ambitieux, au moins à la hauteur de ce qui est prévu chez nos voisins d'Europe de l'Ouest, Pays-Bas, Italie, Espagne, Portugal, etc. Et à plus long terme, une trajectoire 100% renouvelable à l'horizon 2050, basée sur la lutte contre le gaspillage énergétique, sobriété, efficacité et la justice sociale. Une priorisation des subventions à la rénovation performante des logements, en commençant par les passoires énergétiques. Une véritable montée en puissance de la rénovation bâtiments basse consommation doit être mise en place dans les années qui viennent. L'objectif, sortir du gaspillage énergétique, des factures énergétiques exorbitantes et de la précarité énergétique, les 12 millions d'occupants de ces logements passoires en une décennie. Ce que chaque auditrice et chaque auditeur peuvent faire pour commencer, c'est pour ceux qui sont inscrits chez EDF, de se tourner vers les producteurs d'énergie solaire. Papa et moi, nous l'avons fait en trouvant Urban Solar. Il suffit de se renseigner sur ceux qui acceptent les nouveaux adhérents. Ça peut prendre du temps, mais croyez-moi, ça en vaut la peine.
Seul dans son palais, un homme affronte les éléments, garde le cap, mais regarde l'horizon avec inquiétude et gravité. Quand je lis les journaux, le matin à l'Élysée, et que ma popularité ressemble à celle de Vauquier,
Quand ceux qui ne sont rien ne pensent qu'à leur fin de mois, je rêve dans mon coin. Quand je vois tous les samedis des milliers de gilets jaunes envahir le pays, j'envierais presque Carlos Ghosn. Je peux même pas skier tranquille, faut encore que je me farcisse les Black Blocs à Paris et les petites vieilles à Nice. Faut que je tienne, que je tienne.
Allez, vas-y Manu,
on est avec toi.
Ouais, tienne.
Quand je vois que mes petites phrases me reviennent comme un boomerang, je me dis qu'il faut que j'écrase, que je tienne surtout ma langue, que je me tienne à carreau, que j'arrête d'insulter ces connards de prolo. Et merde encore raté. Faut que je tienne. Mes ministres ne m'aident pas à garder mon sang-froid. Chiapa chez Hanouna, 2h30 de yoga. Gouverner que c'est rude, je commence à avoir un doute. J'ai tellement pas l'habitude que je tombe en burn-out. Ah, faut que je tienne. Ah, que je tienne.
Et oui, c'était les Goguettes, tirées de leur album Globalement D'accord. Voilà. Les paroles sont des Goguettes. Le thème musical, je ne vous dirai pas qui était le chanteur qui était derrière ça. Voilà. Nous allons passer sur un autre, quelque chose qui est tout aussi triste que le nucléaire. C'est ce qui se passe dans le conflit palestinien-israélien. Voilà. Alors, Serge de l'émission Trou Noir, qui passe tous les lundis après-midi, il m'excusera, mais je ne me souviens plus ses horaires d'émission, mais je pense que c'est peut-être de 14h à 16h, ou de 16 à 18. Il m'excusera s'il nous écoute. Voilà. Donc, il avait reçu le 13 novembre dernier Roland Nurier, qui est un réalisateur du documentaire Yalla Gaza. Et il a transmis à Serge des informations sur la Palestine et que j'ai pu me procurer en l'imprimant comme ça. Voilà. Donc je vais vous lire le communiqué de l'association France-Palestine Solidarité, abrégé en AFPS, qui concerne les produits et entreprises à boycotter, et un communiqué de l'Union juive française pour la paix. UJFP. En 2005, 172 organisations de la société palestinienne lançaient un appel à une campagne de boycott, désinvestissement et de sanctions contre Israël visant à contraindre cet État à respecter le droit international. L'appel fixe trois objectifs à la campagne: la fin de l'occupation et de la colonisation de la Palestine, l'égalité des droits pour les Palestiniens d'Israël et l'application du droit au retour pour les réfugiés. la FPS a souscrit à cet appel et s'inscrit pleinement dans cette campagne. Ci-dessous, une liste de produits, de services et d'entreprises que l'AFPS encourage à boycotter en raison de leurs liens avérés avec le régime d'apartheid israélien et les crimes qu'il commet à l'encontre du peuple palestinien. Cette liste n'est pas exhaustive, car elle était centrée sur les produits et les marques les plus connues que tout un chacun peut être amené à rencontrer lors de ses achats ou ses recherches de services. Ces actions de boycott constituent un moyen essentiel qui nous est offert pour exprimer notre indignation et notre refus face à l'horreur du génocide en train d'être commis à Gaza et dans toute la Palestine occupée. Voilà. Alors voilà l'appel à action et produits à boycotter sur le site AFPS. Liste des produits, marques et entreprises à boycotter. Produits israéliens, provenant ou non des colonies illégales. Dates étiquetées Israël. La plupart des dates proviennent du territoire palestinien de la vallée du Jourdain et sont récoltées par des ouvriers palestiniens qui ont été chassés de leurs terres et sont surexploités dans les palmeraies. Fruits et légumes, en particulier la marque Méadrine, Jaffa, Adil Claim, Carmel, Jordan River. Israël triche systématiquement sur la provenance des fruits et légumes étiquetés d'Israël. Le vin. La plupart des vins étiquetés Israël, vendus le plus souvent sur Internet, proviennent d'entreprises vinicoles implantées dans les colonies de Cisjordanie ou du Golan syrien. Cosmétiques Ahava, fabriqués à partir de bouts de la mer Morte, situés en territoire palestinien occupé. Keter, fabricant et fournisseur d'articles ménagers, d'équipements, de rangements pour le jardin ou la maison. Keter possède 2 usines implantées dans une colonie de Cisjordanie. Les marques Aliber et Corver, rachetées par Keter, sont également à boycotter. Eden Spring, château d'eau, spécialiste de la fourniture d'eau en bonbonne, implantée dans une colonie du Golan. Château d'eau est la filiale d'Eden Spring pour la France. Vous connaissez ces grosses bouteilles là qui font 10 kilos? J'en ai connu ça quand je travaillais. Soda Stream, fabricant de machines à gazéifier l'eau et de sirop et concentré. Sa présence massive dans les grandes surfaces en fait l'un des principaux représentants de l'industrie israélienne. Teva, cette multinationale a son siège social en Israël, où elle produit des médicaments. Elle profite du marché captif que constituent les Palestiniens sous occupation et contribue au budget de l'État colonial. Netafim et Elgo, système d'irrigation pour l'agriculture et le jardinage. Ah, pour les mamans, lingettes pour bébés, vendues par Carrefour, qui sont bien implantés un peu partout. Sous la marque Carrefour Baby et par Leclerc. Oh tiens, Leclerc, celui qui faisait des réductions à l'époque. Vous allez chez Leclerc, vous payez moins cher. Sous la marque Mots d'enfant, M-O-T-S. Alors que des milliers de bébés et d'enfants ont été assassinés à Gaza, ce boycott a une très forte valeur symbolique. Il convient d'être également attentif à toutes les lingettes. Nombre de ces lingettes mentionnent en tout petit fabriqués en Israël et sont disponibles dans d'autres enseignes. À entreprises françaises et étrangères complices. Carrefour, la complicité du géant français de la distribution, a pris ces dernières années diverses formes. Accords avec des sociétés israéliennes, actrices directes de la colonisation, vente de produits Carrefour dans les colonies, vente de produits israéliens dans ses magasins en France et récemment, distribution de colis aux soldats de l'armée israélienne. l'AFPS, avec ses partenaires, est à l'initiative de la dénonciation de ces scandales et d'une campagne de désinvestissement en direction du PDG de Carrefour. L'AFPS propose aussi le boycott en parallèle à cette campagne. On passe aux banques. Banque Populaire, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale. Tiens. Ces banques qui ont passé des accords avec les banques israéliennes, très impliquées dans la colonisation, font l'objet d'une campagne de désinvestissement conduite par l'AFPS avec ses partenaires. L'éventualité du boycott est laissée à l'appréciation de leurs clients. AXA. Tiens, c'est un truc d'assurance, il me semble. Comme les banques ci-dessous, le géant de l'assurance AXA investit dans des banques israéliennes, acteurs de la colonisation. De plus, AXA investit dans l'entreprise israélienne d'armement Elbit. Tiens. AXA est visé par une campagne internationale de boycott. Alors, Optical Center, cette société créée par un franco-israélien qui affiche son soutien inconditionnel à la politique d'Israël est très implantée en France. Optical Center possède, entre beaucoup d'autres, un magasin dans la colonie d'Ariel. C'est pas ma colonie à moi. Et procède régulièrement à des dons de lunettes et des protèges auditifs pour les colons. Et on a également offert aux soldats engagés à Gaza. C'est vrai que les soldats, à force d'entendre du bruit, ils sont complètement sourds. Ils obéissent qu'avec des petits drapeaux. Yves Rocher. Ah tiens, Yves Rocher, qui faisait des produits naturels à une époque. Ce groupe français possède la société israélienne Sabon, dont elle diffuse les produits. Sabon soutient directement l'armée israélienne à Gaza en offrant des colis aux soldats. Oh, L'Oréal. Liliane Bettencourt, Schuller. La multinationale française est fortement implantée en Israël depuis 30 ans, avec des installations industrielles et des investissements importants en Israël et Cisjordanie occupée. De plus, L'Oréal réprime ses salariés lorsqu'ils s'expriment en soutien à la Palestine. Ah non, non. Hewlett-Packard, HP. La société Hewlett-Packard collabore au système carcéral israélien, aux checkpoints, aux cartes biométriques, au blocus de Gaza et à la colonisation de la Palestine. En France, il est demandé à la FNAC et à d'autres distributeurs de ne plus vendre ses produits. Bon, ben, faut voir si Boulanger, hein, qui a remplacé dans le quartier, comment il s'appelait l'autre qui était avant nous. Darty aussi peut être impliqué. Mais ça, c'est dans les sociétés exhaustives, parce qu'ils n'ont pas pu tenir tout. Ah là là. Dell, DE2L. En 2023, Dell Technologies a remporté l'appel d'offres du ministère israélien de la Défense, qui est considéré comme le plus grand appel d'offres de ce serveur à ce jour. Dell fournira des serveurs, des services de maintenance et du matériel connexe à l'armée israélienne, au ministère israélien de la Défense et à d'autres organes de sécurité. Motorola. Motorola Solutions est le seul fournisseur de réseau cellulaire 4G pour l'armée israélienne. Motorola Solutions est également le développeur et le fournisseur des appareils smartphones militaires israéliens. Il y a aussi Airbnb, Booking, Expedia, TripAdvisor. Ces quatre sociétés possèdent des hébergements dans les technologies, dans les colonies illégales, sans indiquer cette caractéristique. Voilà. Donc maintenant, je vais vous lire le communiqué de l'Union juive française pour la paix. Soutenir la société civile palestinienne, dénoncer sans relâche les complices du génocide. Depuis le 7 octobre, les meurtres quotidiens se poursuivent à Gaza. Dans sa rage, l'armée la plus morale du monde, bombarde sans relâche des bâtiments, des habitations où elle sait qu'elle va exterminer des familles entières. Elle frappe ceux qui essayent de fuir, les écoles, les camps de réfugiés, les édifices religieux et même les hôpitaux. Ah, ça c'est typique de toutes les armées. Les blessés, on les élimine. Ils ont une rage dedans, tu envoies un pavé. C'est dingue. Elle utilise de petits hélicoptères télécommandés pour terroriser la population, en chassant de chez eux la grande majorité de la population. L'occupant détruit le tissu social. De même, en Cisjordanie, l'armée prête main forte aux colons dans des attaques conjointes contre les civils. Les populations des villes, les paysans, les bédouins, certains des ministres parlent ouvertement d'expulsion de masse, de déportation. Ça rappelle une bonne époque nazie, ça. C'est la société civile et les centaines d'associations petites et grandes qui permettent à la Palestine, à Gaza comme en Cisjordanie, de résister. Il y a les grandes associations, droits de l'homme, familles de prisonniers, associations de femmes, syndicats, associations sportives ou culturelles, comités populaires, et on en passe. Et les petites associations qui assurent le prêt scolaire, l'entraide. La Palestine est une société très éduquée et où l'illettrisme est extrêmement rare. Ah, c'est pour ça qu'on veut les éliminer, parce qu'ils réfléchissent. Où les familles se saignent pour payer des études supérieures à leurs enfants. Pour cette cohésion sociale, beaucoup de Palestiniens acceptent de travailler sans salaire. Bonjour. La Palestine est une société pluraliste avec de très nombreux partis. C'est ce tissu social que nous devons défendre. L'Union juive française pour la paix a soutenu depuis 2016 les paysans. Elle soutient à présent ceux qui parviennent, dans des conditions très difficiles, à fournir des abris, à nourrir une population affamée, à éviter les épidémies, à protéger les enfants, à aider les hôpitaux. L'Union française pour la paix, juive française, n'a pas les moyens des grandes organisations internationales liées à l'État. Mais, nous l'avons souvent dit, l'important est autant que faire se peut, de maintenir des liens personnels avec ceux que nous connaissons. Pour nous, les Palestiniens ne sont pas des nombres. Imposer un cessez-le-feu et le retrait de l'armée israélienne est un impératif. Une partie de cette guerre se joue hors de Palestine. Elle se joue dans le monde arabe, alors que les peuples arabes ont montré par des manifestations massives leur soutien à la Palestine. Les régimes féodaux du Golfe, l'Égypte, le Maroc et le Maroc maintiennent leurs relations politiques et économiques avec Israël. Ils n'ont rien fait pour contraindre l'occupant à arrêter le massacre. Ils n'ont pas utilisé l'arme du pétrole. Ils s'apprêtent à jouer le jeu de l'occupant en installant leurs hommes en Palestine. C'est du beau. Elle se joue en Occident. Les États-Unis et l'Union européenne arment Israël et empêchent sa condamnation internationale pour que cet État, avec son armée, son savoir-faire technologique et son expérience en matière d'enfermement, de répression et d'élimination physique, ait pour eux un modèle. Bonjour. Cet Occident qui prétend, face à la Russie, l'Iran, la Chine, de défendre le droit international est en train d'annihiler en respectant pas l'ensemble des textes que les nations devaient respecter. Cette stratégie de soutien aux racistes, suprémacistes, assassins qui dirigent Israël conduit à la généralisation des guerres, de la loi du plus fort et des actes barbares. L'UJPF appelle donc à soutenir la société civile palestinienne en lui permettant d'organiser sa survie et de maintenir sa cohésion. À multiplier partout dans le monde les manifestations, les actions de boycott, les dénonciations pour forcer les États complices à imposer un cessez-le-feu à sanctionner l'occupant. Tout le personnel politique français, au pouvoir ou non, qui, par leurs déclarations, soutient publiquement la politique israélienne, les crimes de guerre, le génocide du peuple palestinien, auront un jour des comptes à rendre et ne les lâcheront pas. Ils ont du sang sur les mains et ont bafoué définitivement les valeurs de la République française. Et ça veut encore dire quelque chose. Il fait noir au pays des Lumières. Voilà. Eh bien, une petite pause musicale.
Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Venesmacha, Hava Nagila. Hava Nagila, Hava Nagila, Venesmacha. Hava Naranena, Hava Naranena, Hava Naranena, Venesmacha. Hava Naranena, Hava Naranena, Hava Naranena, Venesmacha. Uru, uru, achim, uru, achim, balev sameach, uru, achim, balev sameach, uru, achim, balev sameach, uru, achim, balev sameach, uru, achim, uru, achim, balev sameach. Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Venesmacha. Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Venesmacha. Hava Naranena, Hava Naranena, Hava Naranena, Venesmacha. Hava Naranena, Hava Naranena, Hava Naranena, Venesmacha. Uru, uru, achim, uru, achim, alev sameach, uru, achim, alev sameach, uru, achim, alev sameach, uru, achim, alev sameach, uru, achim, uru, achim, melev sameach. Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Venesmacha. Hava Nagila, Hava Nagila, Venesmacha. Hava Naranena, Hava Naranena, Hava Naranena, Venesmacha. Hava Naranena, Hava Naranena, Hava Naranena, Venesmacha. Uru, uru, achim, uru, achim, alev sameach, uru, achim, alev sameach, uru, achim, Ruachim belev sameach,
thank you.
Vous avez entendu le groupe Karwan. C'était une balade. C'est un groupe palestinien qui faisait partie d'une tournée qui a lieu en France en 2006 pendant le second le quinquennat de Monsieur Chirac. Pardon.
Oui.
Jacques Chirac. Et parmi les donateurs pour financer ce tour, il y avait aussi, bien sûr, la banque, les petits riches, comment ça s'appelle ? Ah oui.
Bettencourt Schuller.
Et aussi la banque Rothschild, hein, tout ça, tout plein.
La banque Rothschild, voilà. On voyait dans le générique oui. de fin. Dominique de Villepin, oui. Très étonnant.
Douste Blasi, tout ça.
Douste Blasi. Alors, pas mal, vraiment très très hypocrite. On voit bien l'infiltration. Cette association aider des artistes, des groupes qui étaient mixtes, qui des groupes palestiniens, des groupes israéliens et des groupes mixtes, à la fois israéliens et palestiniens, qui voulaient faire de la musique ensemble, à pouvoir faire un concert en dehors de leur pays et montrer à quel point ils veulent la paix. Et ces riches espionnent. Ils proposent leur aide très aimablement, mais c'est pour espionner. C'est immonde.
Comme quoi, d'un côté, on vend des armes, et de l'autre côté, on fait une œuvre sociale.
Oui.
C'est la grande hypocrisie, comme les catholiques. Tu as un dernier texte à nous dire ?
Oui, 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 le communiqué du secteur armement de Sud Industrie. Répression partout, massacre à Gaza ou ailleurs. Les actionnaires charognards de l'industrie de l'armement, avec l'aval des gouvernements, font du profit sur les cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. Par exemple, la filiale Thales UK du groupe français Thales participe à la construction des drones Hermès 900 et 450 que l'armée israélienne utilise au large de Gaza en Palestine en commettant des crimes de guerre pour faire fuir la population. L'une des raisons du déclenchement maintenant de ce nettoyage ethnique, c'est que Netanyahou convoite le champ de gaz marine en face de Gaza. Cette implication d'actionnaires français dans les crimes commis par l'armée israélienne ne date pas d'aujourd'hui. Rappelons qu'historiquement, l'aviation militaire Dassault et la centrale nucléaire utilisée à des fins militaires israéliennes ont été montées par la France, qui comptait se servir d'Israël pour soutenir sa propre politique coloniale. Par exemple, l'envoi de tirailleurs israéliens pendant l'invasion franco-britannique ratée de l'Égypte en 1956 pour le contrôle du canal de Suez. Être salarié dans le domaine de l'armement, c'est bien souvent se mettre des œillères sur l'utilisation concrète des armes que nous participons à produire. Cette attitude qu'on peut avoir à ne pas vouloir voir la réalité en face pour s'éviter toute mauvaise conscience. Ce sont des armes de défense et non d'attaque. Elles ne seront pas utilisées, mais seulement là pour dissuader. Ou enfin, si ce n'est pas nous, quelqu'un d'autre les produira. Et bien évidemment, nos entreprises font tout pour nous laisser dans cette bulle hypocrite. Mais l'actualité projette continuellement une lumière crue sur leur utilisation réelle. On voit alors l'impact de notre travail sur les femmes et les hommes. Ces armes mutilent, tuent ou aident à le faire, et nous y avons participé. Que ce soit à Gaza, en Ukraine, en Afrique, au Yémen ou ailleurs, ces armes gagneront le beau label « éprouvé en situation réelle de combat » qui permettra de rajouter des arguments de vente sur leurs brochures commerciales, sans rappeler que cela s'est fait au prix de nombreuses vies ou mutilations humaines. Ainsi, par exemple, Sherpa et deux autres ONG ont porté plainte pour éventuelle complicité dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés au Yémen, contre MBDA, Dassault Aviation et Thales au sujet de leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Les actionnaires charognards de ces entreprises sont donc loin d'en être à leur premier méfait. Des véhicules blindés MIDS et Sherpa Arcus, ARQUUS, ont servi à la répression sanglante en Égypte. C'est ce genre de choses que l'on nous présente comme la défense nationale. En France, Thales et ses partenaires, dont IER, développent la technologie d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale à des fins de répression et pour empêcher la liberté de circulation. De plus, les armes des forces de l'ordre ont servi à éborgner et tuer Rémi Fraisse, tué par un gendarme à Sivens. Zined Redouane, octogénaire, tué à sa fenêtre par une grenade lacrymogène pendant le mouvement des Gilets jaunes à Marseille. Naël, tué par un policier à Nanterre, pour réprimer les mouvements sociaux et les quartiers ouvriers. Rappelons aussi que l'armée française a fait elle-même bien pire que l'armée israélienne à Gaza. Encadrement du génocide au Rwanda en 1994, par exemple, plus de 800 000 morts en 3 mois. En tant que salariés des entreprises d'armement, nous subissons pour le moment les choix des patrons et de leurs actionnaires. Nous subissons leur décision de produire des armes, alors que nos métiers et l'outil industriel pourraient être reconvertis pour une finalité bénéfique, utile, ou tout du moins moins non mortifère. Nous subissons leur décision de vendre toujours plus d'armes, toujours plus destructrices, et à destination de n'importe quel pays. Tout cela avec le blanc-séant du gouvernement, premier VRP de l'armement qui accorde l'autorisation d'exportation. Nous en avons assez d'être contraintes et contraints à la complicité de crimes pour pouvoir manger à notre faim. Nous devons prendre conscience que le résultat de l'esprit d'entreprise est mortifère en général. Plus de 3 morts par jour au travail en France. Et plus encore dans l'armement que les salariés de l'armement ou d'ailleurs ont tout intérêt à se battre pour que la donne change. Non aux ventes d'armes à des pays qui commettent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, condamnation lourde des profiteurs de guerre, taxation à 100% des profits de l'armement. Dans l'armement comme ailleurs, préparons-nous à nous donner le pouvoir de décider ce que l'on produit.
Merci Elsa. Ça remue, je sais. Et tant que ce gouvernement sera en place, ça ira mal. Et encore...
Et avec Gabriel Attal en tant que Premier ministre, c'est pas prêt de s'arranger. Il faut se défendre. Voilà ce qu'il faut. Il faut résister.
Eh bien, nous allons terminer cette émission avec notre générique Boris Vian.
Oui.
Et nous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres textes.
Oui.
Malheureusement, ça ne risque pas d'être des trucs très joyeux, mais ce sont des alertes pour que vous puissiez vous défendre. Tout ça.
Oui.
Je sais que sur Radio Libertaire, on ne parle pas de vote, mais c'est libre à chacun de vous de mettre ce que vous voulez dans l'urne. Voilà. Mm-hmm. Mais mettez le bon choix. Merci à vous. À bientôt.
À bientôt.
La gloire de tous les enchanteurs du Merlin. Les joyeux bouchers. Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Comme un vieux chapeau, le vieux monde nous colle à la peau.
Bonsoir, Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. N'oubliez pas de télécharger la souscription. J'ai oublié de vous dire, évidemment, c'est Jazz Libre ce soir, une émission sur les nouveautés, rééditions, si nous avons le temps. Beaucoup de choses d'actualité. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast en vous connectant sur le site de la radio. Le podcast est disponible 12 mois après la diffusion de l'émission. Ce soir, c'est une émission enregistrée. Je vous recommande également de vous connecter sur le site de la radio pour nous soutenir en téléchargeant le bon de souscription. Nous avons besoin de votre soutien pour maintenir la radio. N'oubliez pas de vous connecter sur ma page Facebook Yves Jazz Libre, sur laquelle je mets l'ensemble des informations, playlists et pochettes des albums, de façon à ce que vous puissiez retrouver l'ensemble des informations. Et si vous avez besoin de plus, vous m'envoyez un mail à dk51@sfr.fr. Voilà. Alors ce soir, nous allons commencer par un disque d'un album qui s'appelle Extrasystole, du groupe Coccolite. Alors, vous savez, les extrasystoles, ce sont ces irrégularités cardiaques que certains sont affectés, ce qui n'est pas très très rigolo. Donc, pour vous dire que le disque va sortir le 16 février, donc c'est en avant-première, et qu'il y aura donc la sortie du disque au New Morning le 16. Voilà. Donc le groupe Coccolite comprend au clavier, synthétiseur, programmation Nicolas Doran, à la batterie et aux machines Julien Serrier, à la basse et synthétiseur Timothée Robert. Et il y a en invité Christophe Zogonès à la flûte. Alors voilà, c'est un groupe assez particulier qui fait une musique plutôt, moderne, enfin dans l'air du temps, qui évidemment s'inspire de beaucoup de claviers, du rock, quelque chose d'assez dense et un peu puissant. Donc je vous ai choisi là pour commencer cette série d'émissions d'un titre qui s'appelle L'épître de Michael, et c'est avec justement le flûtiste Christophe Zogonès. Voilà, c'est parti.